villes et villages de Haute-Provence. Fréquence Mistral, en lien avec l'Association des maires de France, propose des focus sur des communes bas-alpines. Villes et villages de Haute-Provence vous emmènent au cœur des territoires et au plus près de ceux qui les façonnent. Située au bord de la Durance et des voies de communication, la ville d'Oraison compte près de 6000 habitants. En un siècle, sa population a triplé et Oraison continue de grandir. Son maire, Benoît Gauvan, est agriculteur et a présidé un syndicat agricole avant de se lancer en politique sous les couleurs de La République en marche. Il a été élu en 2020 et il est également conseiller départemental. Benoît Gauvan accueille le visiteur dans son bureau, sous des clichés humanistes de Robert Doisneau, comme un message populaire et convivial. En parlant avec lui de sa commune, de quelques belles entreprises et d'associations dynamiques, nous évoquons ce jour funeste de juillet 1944 où les chefs de la résistance bases alpines tombent dans un guet-apens de la milice et la Gestapo. Ils seront torturés et tués 2 jours plus tard à Signes dans le Var. 1 mois après, les troupes américaines libéraient la ville. Le collège d'Oraison porte le nom du docteur Itard, natif d'Oraison, et qui a été incarné par François Truffaut dans son superbe film « L'enfant sauvage ». Ville attachante, Oraison est le sujet de ce magazine où l'on parle aussi de bière, de blues et des restos du cœur. Suivons François Malabave à Oraison, une ville à la campagne.
Benoît Gauvan, vous êtes le maire d'Oraison, vous avez été élu en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la mairie d'Oraison ?
C'est un peu la finalité d'un parcours qui a débuté il y a maintenant quelques années. J'étais jeune agriculteur. Je me suis d'abord intéressé à l'agriculture par mon métier, puis je suis rentré dans le syndicat, et puis j'en ai pris la direction départementale, puis après la chambre d'agriculture, le conseil économique, social, régional, et puis un petit peu de politique. J'ai rejoint La République En Marche, et puis l'envie toujours de m'impliquer dans mon territoire, tout simplement, et puis des rencontres d'Oraisonnais qui avaient envie de construire une liste. J'ai rencontré des gens motivés, qui avaient envie de faire bouger leur ville. Je trouvais que la ville d'Oraison était, on l'a souvent dit pendant la campagne, un diamant qu'il fallait encore un petit peu tailler et polir. Ils m'ont demandé de prendre la responsabilité de cette liste. J'ai accepté tout de suite et puis les choses sont venues comme ça.
Alors une exploitation agricole et puis une ville qui se développe, la 4e ville des Alpes de Haute-Provence, presque 6000 habitants, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose. Bon, y a une grosse différence, c'est que j'ai une équipe avec moi. Et l'équipe, c'est d'abord une équipe municipale avec mes colistiers, mes adjoints, et puis aussi une équipe d'agents, hein, 109 agents dans la commune d'Oraison. Donc c'est un gros travail d'équipe. C'est un métier multicasquette. Donc là, je rejoins un petit peu l'agriculture. Je cultive beaucoup de légumes différents. Ben, aujourd'hui, quand je pousse la porte de mon bureau, je sais pas trop quel dossier va arriver sur la table. Alors ça peut être comme aujourd'hui du déneigement, ça peut être les problèmes liés à la Covid et notamment les problèmes qu'on peut rencontrer dans les écoles avec les fermetures de classes, etc. Ça peut être un mariage. Donc ça peut être des bons moments, des moments un peu plus compliqués. Mais c'est surtout qu'en fait, on sait jamais à quoi s'attendre et c'est peut-être ce qui est très intéressant aussi dans le rôle.
Ça vous demande aussi une disponibilité de tous les jours.
Alors oui, beaucoup de disponibilité, mais là aussi, je m'appuie quand même sur mon équipe. C'était aussi une des conditions que j'avais posées, c'était leur dire « je veux que mon équipe de 8 adjoints soit vraiment une bonne équipe, qu'elle soit soudée et que l'équipe prenne conscience que mes disponibilités étaient des fois un peu compliquées, en sachant que je suis très attaché à mon métier. On nous reproche souvent en tant qu'élu d'être déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un métier qui me tient les pieds sur terre, voire dans la terre. Donc je suis très attaché à conserver le plus longtemps possible mon activité agricole. Alors oui, c'est un peu du jonglage, c'est des fois un peu fatigant, mais j'y tiens et je resterai dans le plus longtemps possible avec ces deux casquettes.
Quels sont les atouts de votre commune ?
Alors déjà, on dit souvent c'est une ville à la campagne, et c'est pas, enfin, c'est un terme que je dois à un de mes prédécesseurs, mais Oraison, c'est une petite ville, mais une petite ville qui vit beaucoup. On a énormément de commerce. On a vraiment une vraie vie de village qui a pu disparaître de certains petits villages, notamment en périphérie de Manosque, puisqu'en fait, Manosque a absorbé tout ce côté commercial. Nous, on a la chance d'être assez loin de Manosque, mais proche aussi quand même. Et donc, on a beaucoup de petits villages qui viennent faire leurs courses à Oraison. Donc, on a beaucoup de commerce de proximité. On a un tissu associatif qui est assez bluffant et très dynamique. Alors, c'est sûr que les deux dernières années ont été bien plus compliquées. Et puis, on a un hippodrome, on a un lac, on a une piste de parapente, on a des sentiers de randonnée, on a la Durance, l'As, le Rancure, le lac de pêche. Voilà, plein d'atouts qui font que ben, c'est une ville où il fait bon vivre.
Vous avez quelques belles entreprises aussi. Je pense à Doucet, je pense à Perlamande. Vous cultivez l'art de vivre et l'art de se nourrir.
C'est une ville de goût, dans tous les sens du terme. Mais oui, vraiment, on a quatre entreprises d'ailleurs qui ont été lauréates du plan de relance et quatre entreprises d'exception. Et si elles ont été lauréates, c'est aussi parce que leurs dossiers étaient des bons dossiers et que c'est des entreprises qui ont une vraie dynamique. Donc, il y a Doucet, il y a Perlamande, il y a US Labo et puis il y a Albad. Ces quatre entreprises-là vont créer, grâce au plan de relance, 60 emplois. Pour une ville comme Oraison, c'est énorme. Et on n'aurait pas eu ce plan de relance s'il n'y avait pas cette dynamique. C'est des gens qui ont envie de faire plein de choses. Enfin, je veux dire, vous venez à la fête de l'amande, vous voyez aussi la dynamique de ces entreprises-là et des autres. Parce qu'on a aussi, je sais que vous êtes allé voir Cerevisia, c'est des petites entreprises qui montent. Donc voilà, un tissu économique, associatif. Et puis les Oraisonnais sont sympas. Voilà.
Je confirme, les Oraisonnais sont sympas. Benoît Gauvin, vous avez dans votre équipe plusieurs élus qui sont issus du territoire, mais aussi des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont leur propre parcours.
Je viens du monde du rugby. Et dans le monde du rugby, on a des gens qui ont toutes les tailles, tous les poids. Il y en a qui c'est leur force qui fait avancer l'équipe, d'autres c'est leur vitesse. On a construit l'équipe municipale un peu de cette manière-là. On a ceux qui sont du terroir, du territoire, qui sont des familles d'Oraisonnais depuis très longtemps, qui connaissent bien le terroir. Et puis on a ces regards extérieurs qui nous apportent une vision différente, des expériences différentes. Le but du maire, c'est d'être l'alchimiste en fait dans tout ça. Et moi, j'ai mis le feu sous la marmite, on a mélangé tous ces ingrédients et on espère que ça va faire que des bonnes choses pour Oraison.
Actuellement, vous êtes heureux dans votre rôle de maire ?
Écoutez, vous le voyez, alors je ne sais pas si ça s'entend à la radio, mais j'ai toujours le sourire, je viens toujours avec le sourire. Donc, pas de problème.
Vous avez ici à Oraison un collège qui porte un nom particulier, celui du docteur Itard. Autrement dit, le film de François Truffaut et l'enfant sauvage, c'est une mythologie particulière et cinématographique, mais c'est un personnage qui est né ici même à Oraison.
C'est un personnage qui est né à Oraison, donc on a aussi la place, hein, Itard, et très méconnu encore des Oraisonnais, je trouve. C'est peut-être une des choses qui nous manque, c'est qu'on ne sait pas mettre en avant ce patrimoine-là. On a un joli patrimoine, mais qui n'est pas le patrimoine qu'on peut trouver. Enfin, je pense à la citadelle de Sisteron ou à la vieille ville de Fort-Calquier. Mais on a un patrimoine culturel et de personnages. On a Itard, on a aussi Pasteur qui est venu étudier les maladies du ver à soie à Oraison. Donc là, on a quand même quelque chose à creuser pour montrer tout ce patrimoine culturel. Et puis, oui, on a des personnages illustres qui viennent de notre ville. Il faut peut-être des fois qu'on le dise un peu plus.
Et puis, quand on pense à Oraison, malheureusement, on pense aussi à ce 16 juillet 1944, hein, une date terrible avec un guet-apens où quasiment toute la tête de la résistance basalpine a été décimée par la Gestapo et les Allemands.
Oui, c'est une des périodes sombres de notre histoire en général et une journée qui marque l'histoire de notre ville. J'ai eu la chance cette année de descendre à la cérémonie le 18 juillet au Charnier de Cygne. Et on le disait tout à l'heure avant de commencer l'interview, je pense que si on me demande aujourd'hui quelle est la chose qui m'a le plus touché dans mon court mandat, ça fait pas très longtemps que je suis ici, je pense que cette journée est sûrement celle qui m'a le plus touché. Pour plusieurs raisons, dont une qui me rappelle mon histoire personnelle, c'est étant en troisième au Collège du Mont d'Or à l'époque, j'avais Monsieur Donato comme professeur d'histoire géo. On avait fait un concours sur la résistance avec mes collègues. On avait gagné ce concours et on était allé au Charnier de Cygne avec des résistants parler de ce jour-là. Donc c'est assez prenant au niveau émotion de se revenir autant d'années plus tard en étant le maire de cette ville. Et puis j'en discutais avec la mairesse de Cygne. Je disais que nos deux villes avaient ce lien-là qui était un lien quand même très fort, même si finalement beaucoup d'Oraisonnais ne connaissent pas la ville de Signes, beaucoup de personnes qui vivent à Signes ne connaissent pas Oraison, mais pourtant nos deux villes sont jumelées à jamais par cette histoire.
Et par cette tragédie, donc. On va revenir à Oraison de manière un peu plus souriante. Vous avez beaucoup d'activités, vous nous l'avez dit, là, sur votre ville, avec une vie associative extrêmement importante. Vous avez aussi de bons rapports avec les institutions, les pouvoirs publics.
Oui, et puis nos rapports sont très fréquents aujourd'hui. Hein. La période Covid fait que je suis, malheureusement j'allais dire, mais pourtant c'est des gens que j'apprécie beaucoup, en relation constante avec notamment la préfecture de Digne, la sous-préfecture de Fort-Calquier. Ce partenariat-là, c'est quelque chose peut-être que j'apprendais mal avant d'être élu, mais on a vraiment de la chance, je le dis, pas pour leur faire plaisir, je le pense vraiment, d'avoir cette préfète et cette sous-préfète de Fort-Calquier qui sont toujours là pour nous épauler. Quand on est jeune élu, on se retrouve des fois confronté à des problèmes qu'on n'a pas vécu. Et d'avoir à des moments la possibilité de prendre son téléphone et d'appeler les services de l'État, d'être tout de suite reçu et tout de suite aiguillé. Je veux dire qu'il y a des jours où j'ai eu des moments de solitude et elles ont été là toujours et je les en remercie.
Est-ce que vous avez des griefs particuliers ou des difficultés particulières sur votre commune ?
On a, bon, une difficulté, c'est les finances de la commune. Dès notre arrivée, on a demandé un audit de la Cour des comptes, qui a fait ressortir une situation financière un petit peu compliquée, mais qu'on a anticipée. Pendant la préparation de la campagne, on savait que la situation allait être compliquée, mais l'audit nous a vraiment mis en lumière des points d'amélioration. On travaille à ces points-là. On a bien expliqué aux Oraisonnais que pendant les deux premières années de mandat, ça allait être très difficile d'envisager de faire du recours à l'emprunt pour la commune et pour l'investissement. Donc on a décidé de geler les emprunts pendant 2 ans, en attendant que certains se terminent, et puis redonner un peu de souffle à la commune. Et ces 2 années-là, certains nous disent « vous n'allez rien faire ». Mais non, parce que du coup, on travaille à fond nos dossiers, et le jour où les financements seront là, nous, on est prêts, quoi.
Alors justement, vous avez des projets particuliers ?
Alors, on a la chance de rentrer dans le cadre de Petite Ville de Demain, qui va nous permettre de changer un petit peu la physionomie de la ville. Alors, changer la physionomie de la ville, c'est notamment l'aménagement du centre-ville, la traversée de ville. On sait que la traversée de ville pose quand même beaucoup de soucis. On a une grosse circulation, on a une route départementale qui coupe la ville en deux. Hein. Souvent, on parle de la rive droite et de la rive gauche, de chacun des côtés de cette départementale. On a un projet en partenariat avec la DLVA de pôle culturel à Oraison, qui pourra accueillir notre école de musique, l'école de danse, la médiathèque, avec aussi en projet dans ce pôle culturel une salle de spectacle qui puisse accueillir à peu près 200-300 personnes, avec le but d'avoir vraiment aussi un pôle culturel sur le nord de la DLVA, hein, et qui puisse drainer les villages de Villeneuve, de la Brianne, d'Oraison bien sûr, de Volx, et au-delà, peut-être Château. Donc voilà, on a ces deux gros projets. Et puis, bien sûr, pendant la campagne, on avait plein de bonnes idées. Là, on les travaille encore. Le projet Petite Ville de Demain va nous permettre de financer les études sur ces projets-là. On a la chance d'avoir un gros espace à l'intérieur du centre-ville où la maîtrise foncière est municipale et communale. Alors, il y a des bâtiments qui sont aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de friches industrielles, qu'on va essayer de racheter par le PFR pour faire de la reconstruction et surtout la création d'un éco-quartier en centre-ville. On aimerait, et on y travaille, avoir une chaufferie centrale qui puisse chauffer notamment tous les bâtiments publics qui sont assez concentrés, la mairie, l'école, la salle de l'Éden, l'éco-quartier. Voilà. Des projets plus axés sur le développement durable, c'est ce qui manque aussi à notre ville, et puis le bon vivre. On a des commerces, ils sont dynamiques, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'une ville qui soit agréable, où le piéton reprenne un peu sa place. Alors je sais que certains Oraisonnais ne seront pas contents d'entendre ces mots, parce que tout de suite on se dit on va chasser les voitures, mais le but c'est qu'on se réapproprie l'espace qu'on a donné aux voitures. Alors vous inquiétez pas, on ne va pas enlever toutes les voitures d'Oraison, on n'est pas à Paris. Mais voilà, certaines places qui sont aujourd'hui des parkings, on aimerait leur redonner un petit peu de verdure, désimperméabiliser les sols et faire en sorte que ça soit des endroits où on a envie de s'asseoir, de prendre un café, de discuter, de jouer aux boules, de faire du lien intergénérationnel, voilà, de faire village. Souvent on disait faire village, il nous manque un petit peu ça, on va essayer d'y travailler.
Benoît Gauvin, vous êtes également élu départemental, vous êtes élu au conseil départemental. C'est un plus pour le maire d'Oraison, vous êtes ?
Oui, c'est un plus pour beaucoup de raisons. On l'a évoqué, on a un collège, on a une route départementale qui traverse la ville. Donc on est lié au département. On sait que, comme tout à l'heure on a évoqué le travail avec le préfet, mais l'élu que je suis, le maire que je suis, est en relation permanente avec le département, avec la région, parce qu'on va y chercher du financement, on va y chercher des fois aussi beaucoup d'aide sur de l'ingénierie. C'est vraiment ce partenariat qu'il faut créer. Le fait, bien sûr, d'être élu au département va m'aider pour travailler dans ce partenariat. Mais je suis le conseil départemental du canton d'Oraison, qui comprend aussi les villes d'Aimé et de Villeneuve. On a notamment sur les traversées de ville, sur des aménagements routiers, du travail à accomplir sur ces villages-là. Et puis, créer du lien dans ces villes, c'est assez rigolo parce que ce canton, il est un petit peu scindé en deux. Je parlais de la ville d'Oraison avec la route départementale au milieu. Là, c'est la Durance. On a un côté de la Durance, puis notre rive. Un canton qui est bizarre puisque pour aller d'Aimé et d'Oraison, donc on prend le pont de la Brianne, mais la Brianne n'est pas dans le même canton que nous. Donc ce rôle de conseiller départemental, il est aussi de faire un lien entre ces territoires. Puis il y a du développement économique. Derrière le département, il y a les collèges, mais il y a aussi tout ce qui est l'insertion. J'étais aujourd'hui dans une entreprise STP, une entreprise oraisonnaise, où un de leurs apprentis vient d'avoir un prix d'excellence. Et on parlait de cet apprentissage, et on parlait des jeunes. Et dans le département, vous le savez, on s'occupe du RSA. Aujourd'hui, le RSA, c'est un budget énorme pour le département. Et puis, en fait, on se rend compte que on s'essouffle à payer, à chercher des crédits pour honorer ce rôle. Et puis, on oublie qu'on a surtout du travail à faire pour éviter que les gens se retrouvent dans cette situation-là. Donc, développer l'apprentissage, développer les formations et aider les gens qui y sont à s'en sortir, mais surtout aussi éviter que les gens tombent dans le RSA. Et dans des territoires ruraux comme les nôtres, ça parle. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui n'ont pas le permis de conduire à Oraison. Si demain, il faut aller chercher du travail, il faut aller à Manosque. Sans permis de conduire, comment on fait? Des jeunes souvent qui n'ont pas de diplôme. Les centres de formation sont assez éloignés. Donc là, on a vraiment un rôle à jouer pour aider ces gens-là. Alors, il y a les nouvelles technologies, hein. Les formations peuvent venir à la maison. Encore faut-il qu'on ait les outils technologiques chez soi pour avoir un ordinateur et pouvoir suivre ses cours. Donc là, il y a un rôle important du département à avoir. Alors, souvent, on parle du rôle financier. Certes, il est là. Mais je crois que l'élu départemental, il a aussi ce rôle de courroie de distribution. Faire le lien entre les entreprises, les centres de formation et de son territoire et les jeunes et se dire que voilà, le but, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens déjà se voient, se rencontrent et discutent. Si on arrive déjà à faire ça, ça sera une belle avancée.
Oraison compte de belles entreprises que les gourmands connaissent bien. La confiserie, Doucet ou Perle Amande notamment font leur délice. Mais depuis 5 ans, une TPE, très petite entreprise familiale, poursuit une progression maîtrisée. Cerevisia, brasserie oraisonnaise, produit des bières de qualité et variées. Isabelle et Christophe Duquesne sont à la tête de cette entreprise.
Christophe et Isabelle Duquesne, vous avez monté une entreprise qui s'appelle Cerevisia et qui est à Oraison. C'est une brasserie, Christophe.
Tout à fait, oui. Nous avons créé, Isabelle et moi, donc la brasserie Cerevisia, qui veut dire bière gauloise. On a créé cette brasserie en avril 2017, donc ça fera bientôt 5 ans. Suite au niveau de la fabrication, c'est-à-dire qu'on a commencé à brasser à la maison, en fait, hein, comme la majorité des brasseurs artisanaux. Hein. On brasse à la maison, dans la cuisine, sur des petits brassins de 20 litres. Pour peaufiner les recettes, pour commencer à voir un peu si ça nous plaisait aussi cette fabrication. Et ensuite, nous sommes partis en formation pour voir sur des plus grosses quantités, puisque c'est vrai que brasser à la maison sur du 20 litres et ensuite partir sur des plus grosses quantités, c'est pas du tout le même travail. Donc nous sommes partis sur Nancy, à l'Institut français de la brasserie et de la malterie, pour se former. Et à l'issue de ça, nous ne sommes pas spécialement originaires d'Oraison, mais nous vivons sur Oraison et voulons implanter notre activité sur le secteur. On a trouvé ce local dans la zone artisanale et c'est à l'intérieur de ce local que l'on brasse maintenant la bière sur des brassins de 500 litres.
Quelle est justement votre capacité de production ?
Le matériel qui a été acheté, ça nous permet de brasser 500 litres de bière actuellement semaine, puisque nous avons 4 fermenteurs. Là, nous venons d'en acheter un autre, puisque nous sommes arrivés à notre capacité maximale de production par rapport à nos fermenteurs. Et un autre fermenteur qui est arrivé, là, il y a un petit mois, là, c'est ce qui va nous permettre de brasser 100 hectolitres de bière supplémentaire sur l'année.
Vous avez également beaucoup travaillé sur le packaging et notamment sur le graphisme de vos étiquettes et le nom, bien sûr, Cerevisia.
qui a une racine non pas française, mais gauloise.
Tout à fait, donc voire même latine. Le nom Cervisia, en fait, c'est une déclinaison latine de cervoise. Comme tout le monde le sait, la cervoise, c'est la bière de nos ancêtres les Gaulois. Et on est attaché à ces produits vraiment français. C'est pour ça d'ailleurs que notre logo, on voulait absolument un coq pour représenter cet esprit français, avec notre marque bien sûr, et avec ce petit coq français qui se trouve décliné sur toutes nos étiquettes.
Alors Christophe est à la production et à côté c'est Isabelle qui elle est à la commercialisation et à la distribution. Comment est-ce que vous distribuez vos bières Isabelle ?
Alors nous distribuons nos bières chez des revendeurs. À l'heure actuelle à peu près 100 à 130 distributeurs selon l'été ou l'hiver, c'est pour ça que je dis 100 à 130. On travaille avec des bars, au restaurant, cave à vin, les caves à bière, dans les campings aussi, surtout dans le Verdon. On essaye de travailler avec aussi les épiceries fines, les marchés des producteurs. Et on est sur Moustier l'été. On essaye de tourner un peu partout dans le département et dans la région aussi un peu.
Vous faites de la vente directe, c'est important de croiser les clients et les amateurs de bière.
Tout à fait, on aime beaucoup recevoir en direct les clients pour avoir leur retour et puis de permettre d'échanger. En fin de compte, la brasserie est née comme ça, c'est vraiment un moment de partage et de convivialité et c'est ce qu'on voulait absolument reproduire encore ici, aussi bien à la brasserie que quand on est sur des événements. Alors je parle des événements, ça peut être la fête de la menthe qui est un très très grand événement sur Oraison, ça peut être la fête de la lavande sur Valensole, et en fin de compte voilà, on discute avec les personnes et c'est très très bien d'échanger, comme quand on reçoit directement à la brasserie où voilà, on a ce moment d'échange, de partage avec les clients et de dégustation aussi. Voilà, c'est vraiment, on aime ce côté-là.
Et vous avez également une boutique, Christophe ?
Tout à fait, sur place où nous brassons, où nous fabriquons la bière. Nous avons un petit point de vente. Hein. C'est vrai que nous accueillons le public. Nous y sommes le lundi, le mercredi et le jeudi. Après, c'est vrai que les gens généralement nous appellent. On effectue aussi des visites de la brasserie. Donc, c'est vrai que généralement, les personnes nous appellent, des particuliers ou alors même des groupes. D'ailleurs, il y a de ça quelques jours, on a reçu un groupe de camping-caristes qui étaient de passage, des Bretons, justement. Même si là-bas, c'est vrai qu'il y a pas mal de brasseries artisanales aussi. On leur a fait goûter la bière de Provence. C'est vrai qu'ils ont pu, déguster les bières gauloises, nos Bretons ont pu déguster les bières de Provence.
Combien est-ce que vous avez de types de bières différentes ici même ?
Alors actuellement, c'est vrai qu'on a une dizaine de références de bières. Après, il nous arrive d'avoir des bières un peu éphémères. Hein. En ce moment, c'est vrai qu'on a créé la Festive, une bière de Noël, hein, une brune de Noël, avec toutes ces petites épices que l'on peut retrouver dans ces bières de Noël, donc du gingembre, de la cardamome, de la cannelle, histoire de réchauffer un peu les corps et les cœurs, justement, pendant ces fêtes. Elle est déclinée en 1,5 litre. On l'a sortie cette année en magnum. En grosse majorité, on a les bières traditionnelles, entre guillemets, hein, comme de la blonde, de l'ambrée, de la triple, de la stout, une IPA aussi là qui est un peu plus houblonné en fonction de nos envies aussi, donc on crée des recettes, mais généralement c'est vrai qu'on essaye tous les ans d'avoir une ou deux nouveautés.
Où est-ce que vous vous fournissez pour vos ingrédients et vos matériaux?
La bière, c'est un mélange d'eau et de céréales. Ensuite, on y rajoute du houblon pour les arômes et éventuellement l'amertume et les différentes épices. Au niveau des céréales, l'orge, l'épeautre, l'avoine, le blé, le seigle, ces céréales sont récoltées majoritairement en France. Et ensuite, elles passent dans une malterie, c'est-à-dire que les céréales, telles qu'elles sont cultivées par les agriculteurs, on ne peut pas les utiliser telles quelles, il faut les malter. Donc nous, on travaille avec une malterie qui se trouve en Belgique, qui nous permet d'avoir un large panel de céréales. Et le houblon, on travaille avec du houblon alsacien, du houblon américain, du houblon anglais. Et après, c'est tout ce qui est petites épices que l'on va pouvoir ajouter, notamment notre petit quatuor provençal. Donc on a notre blonde intitulée Marius, qui est refermentée au miel de lavande, donc le miel de lavande d'une apricultis d'Oraison. Ensuite, on a notre bière, la Fanny, c'est une blonde aux amandes du plateau de Valensole. Ensuite, une petite bière toujours en blonde, César, on l'a prénommée César, à la fleur de Genépi des Hautes-Alpes. Et la petite dernière, la Félicie, toujours pareil, une blonde avec les baies de Genévrier du secteur.
On peut dire également que Cervisia, c'est une affaire de famille.
Alors une affaire de famille, oui. Christophe et moi, nous avons ouvert la brasserie il y a 5 ans maintenant, mais aussi les enfants. Nous avons 3 enfants et c'est vrai que ce sont les enfants qui nous ont boostés aussi. D'ailleurs, sur nos cuves, chaque cuve porte le prénom de nos enfants, de notre belle-fille aussi et de notre premier petit-fils.
Dans le domaine de la solidarité, les Restos du Cœur tiennent une grande place. Fondés par Coluche, ils rassemblent de nombreux bénévoles pour aider et servir des personnes dans le besoin. C'est un de ces bénévoles que nous avons rencontré à Oraison. Venu de Bretagne il y a une dizaine d'années, Jean-Michel Mouiche était déjà dans l'équipe des Restos et c'est de manière naturelle qu'il se trouve désormais à l'antenne des Restos du Cœur d'Oraison.
Jean-Michel Mouiche, vous êtes responsable des Restaurants du Cœur ici à Oraison. Qu'est-ce que ça représente une association comme la vôtre sur le territoire d'Oraison ?
Les Restos du Cœur d'Oraison, c'est 98 personnes accueillies, 36 familles, des familles qui ne sont pas uniquement oraisonnaises. On est à 80% quand même sur Oraison, mais pour le reste, il y a des gens qui viennent de Villeneuve, du Castellet, de Puy-Michel.
Ça veut dire que vous drainez des personnes de plusieurs communes d'un territoire assez large ?
Oui, mais ça se fait pour l'ensemble des centres des Restos du Cœur du département. Il y a au moins une dizaine de centres sur le 04.
Qu'est-ce que viennent chercher les gens au Restos du Cœur ? Pas uniquement de la nourriture, ils viennent aussi chercher de la chaleur humaine ?
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'en grande majorité, c'est la nourriture qui les motive, mais on voit surtout des personnes qui sont seules, qui viennent et puis qui restent là boire un café, qui restent pendant une heure et demie, alors que bien d'autres, au bout d'une demi-heure, elles sont reparties, quoi. Mais ça fait partie de l'accueil. L'aide alimentaire, c'est une chose, mais il faut aussi les accueillir. Donc le temps d'accueil, le café, la discussion, avant de parler de faire cette distribution de nourriture, c'est quelque chose d'important. Donc on peut les entendre, on peut discuter avec elles, voir comment on peut les aider. C'est un des trucs qu'on a en tête aussi depuis quelques temps, là, c'est qu'en dehors de l'aide alimentaire, on a fait un état des lieux, on a fait un petit sondage auprès des personnes accueillies pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait leur apporter comme autre aide à la personne. Il est ressorti qu'il y a un besoin côté atelier de français, côté aide aux devoirs pour les enfants, particulièrement les enfants de primaire, mais aussi l'accès à l'informatique. Il y a la possibilité de rencontrer un écrivain public, enfin donc qu'on puisse écrire aussi sous la dictée d'une personne accueillie des courriers qu'elle aurait peut-être quelques difficultés à établir. On va aussi voir ce qu'on peut faire dans le domaine de l'aide au retour à l'emploi. Toutes ces choses-là qui nous animent et qui vont prendre un peu de temps, donc faut qu'on voit comment on va s'organiser pour le faire.
Ça va bien au-delà, effectivement, de l'aide alimentaire. Mais pour revenir sur cette essence même des Restos du Cœur, donc l'aide alimentaire, d'où viennent les produits que vous distribuez aux bénéficiaires ?
Il y a un stock départemental, même qui couvre les deux départements, le 04 et le 05, qui se trouve à Pervis. Et donc toute nourriture arrive par Pervis, que ce soit des produits provenant de l'aide alimentaire européenne ou nationale, quoi.
Vous avez, je suppose, comme beaucoup d'associations, et notamment humanitaires, des besoins en tant que personnel et bénévole, bien sûr.
Alors, je dois dire que j'ai pas eu en tête bien les effectifs de bénévoles dans les autres centres, mais je peux dire qu'à Oraison, on a une belle équipe. On est autour de 23, 24 bénévoles, des gens très disponibles, très motivés, et ça se passe très très bien.
Alors comme vous, Jean-Michel, vous venez de Bretagne, vous êtes venu sur Oraison il y a une dizaine d'années à peu près. Qu'est-ce qui vous anime dans les Restos du Cœur et puis dans ce travail bénévole que vous fournissez ?
Ça doit tenir de mon éducation bretonne, la solidarité, l'aide, le contact avec les gens, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Quand j'étais en activité, donc c'était pas possible, mais étant en retraite, tout de suite, je me suis rendu au Restos du Cœur le plus proche pour pouvoir m'inscrire.
Et dès que vous êtes arrivé à Oraison, vous avez franchi la porte.
Oui. Puis il y avait aussi une autre association qui me motivait, mais d'abord les Restos du Cœur, oui.
Un groupe de copains passionnés de musique a fait d'Oraison la capitale du blues dans les Alpes du Sud. Depuis 20 ans, la salle de l'Éden accueille d'excellents musiciens venus souvent d'outre-Atlantique pour des concerts inoubliables. Éden District Blues propose également des manifestations diverses, dont un festival en extérieur tous les deux ans. leur association a aussi un rendez-vous radiophonique très suivi. Le président Gilles Boncourt présente EDB, une association originale.
Gilles Boncourt, président d'Eden District Blues, avec votre association, on peut dire que le blues est au paradis, à Oraison.
Eh oui, avec l'Eden, eh oui, ça fait déjà depuis 2002. Nous allons fêter nos 20 ans en 2022 et on espère qu'on va pouvoir faire une grande fête pour l'occasion, un festival. Et voilà. Donc 2002, j'avais envie d'être organisateur un peu de ce que j'avais envie d'entendre, la musique que j'aime, le blues. Donc voilà, donc j'ai réuni quelques amis autour de moi pour voir si... ils étaient d'accord de partir dans ce projet de créer une association organisatrice de concerts, mais pas que, aussi d'autres événements, des rencontres, des expos, du cinéma, un peu de tout ça autour du blues. Et donc, ils m'ont suivi de là et est partie une équipe sympa, volontaire et enthousiaste pour mettre tout ça en place, quoi.
On peut également dire que vous avez un sacré goût au niveau musical et puis, j'allais dire, des connaissances particulières en ce qui concerne le circuit pour pouvoir faire venir des musiciens, parfois de très très loin et notamment du Mississippi.
Alors c'est vrai qu'on a démarré tout doucement, hein. Je crois qu'il faut garder toujours la tête froide quand on démarre un projet comme celui-là. Et puis très rapidement quand même, on a pu faire venir de belles têtes d'affiche, beaucoup de musiciens américains, puisque c'est quand même de là-bas que nous vient cette musique. Et puis aussi des musiciens internationaux, d'Europe et régionales, voilà, et françaises, oui, parce qu'on a une très bonne scène blues en France.
On peut citer également votre festival, une fois tous les deux ans.
Avec l'ancienne municipalité d'Oraison, on avait décidé d'organiser un festival tous les deux ans, l'Eden Blues Festival. Et donc, c'est vrai qu'avec l'arrivée du Covid, on a eu deux années blanches. Et là, on repart, on est reparti dernièrement, au mois d'octobre dernier, avec un grand musicien, une légende du blues, John Primer.
On a pu applaudir à Sainte-Tulle, car les travaux de l'Éden n'étaient pas terminés à l'heure de ce concert. Gilles Boncourt, vous avez un public qui est fidèle aux soirées blues que vous organisez?
On a un public fidèle, entre 80 et 100 adhérents chaque année. Des Oraisonnais, mais pas que, des gens qui viennent de toute la région, beaucoup des Hautes-Alpes, d'Aix, de toute la région, Avignon, qui viennent voir nos spectacles.
Comment est-ce que vous fonctionnez en tant qu'association? Vous avez des soutiens institutionnels?
Alors bien sûr, on a des soutiens et on les remercie parce que d'abord la commune d'Oraison et puis la DLVA et également le département. Et quelques aides de sponsors privés sur la commune d'Oraison et de Manosque.
Comment est-ce que vous effectuez vos sélections pour les concerts? Vous allez, je suppose, repérer des artistes?
J'écoute beaucoup de blues, donc mais pas que du blues aussi, hein, puisque il n'y a pas que du blues à l'Eden. Il y a toute la musique afro-américaine, que ça soit le rhythm and blues, le rock, le funk, le jazz un peu, voilà, toutes ces musiques qui viennent de là.
Et pour sélectionner vos groupes?
Je parcours un peu quelques festivals, concerts aussi dans la région. Ça me permet donc de sélectionner un peu ce que j'aime. Et puis je reçois pas mal de propositions des agents que maintenant je connais et qui sont, pour certains, sont devenus des amis. Ça crée des liens et donc ça nous permet d'avoir de belles affiches.
Ça fait aussi presque 20 ans que Eden District Blues propose une émission sur Fréquence Mistral, District Blues, qui vous permet aussi tout simplement d'alimenter à la fois vos discothèques et puis d'intéresser le public.
Tout à fait, donc, et puis d'avoir toutes ces nouveautés, et elles sont nombreuses, ce qui nous permet d'avoir un choix énorme, mais c'est vrai qu'il est tellement énorme que c'est difficile avec 5 soirées dans l'année de contenter tout le monde.
Cela dit, on est heureux au paradis du blues.
On est heureux, oui. Bien sûr, je ne travaille pas tout seul. Hein. On est entre 25 et 30 bénévoles actuellement. Pendant ces deux ans, il a été primordial de garder le contact avec les bénévoles. C'est pas toujours facile. Mais on l'a vu le 31 octobre à Sainte-Tulle, les bénévoles étaient là et c'est sympa. Je sais que je peux compter sur eux, quoi.
On peut dire également que vos concerts ont une configuration particulière.
Oui, tout à fait. Depuis le début de notre aventure, on a voulu une certaine convivialité dans les concerts qu'organisait Den District Blues. C'est pas un concert assis en randonnion, c'est un concert formule club, donc avec des tables, des chaises, les gens se rencontrent, discutent entre eux. Et c'est ça qui fait que nos concerts, les gens, quand ils partent de la salle de l'Éden après un concert, nous remercient et ont passé une très très bonne soirée. Voilà. On peut danser. Il y a aussi bar, buvette, snack. On a fait le choix de la convivialité, oui.
On peut signaler également que pour les moins de 18 ans, c'est entièrement gratuit. Ça permet aux jeunes de découvrir une musique que forcément ils ne connaissent pas obligatoirement.
C'est vrai que le blues, beaucoup de gens s'en font une mauvaise connotation et on a voulu faire découvrir aux jeunes cette musique qui est à la base de nombreuses musiques actuelles. Donc on a fait un tarif gratuit pour les moins de 18 ans et pour les autres tarifs quand même, c'est un tarif quand même assez intéressant puisqu'actuellement on est à 18€ le prix d'entrée avec bien sûr des prix dégressifs pour les adhérents, pour les demandeurs d'emploi et c'est tout à fait accessible à tout public.